Vous êtes sur RTL.
Annonçant un réquisitoire excessif, le jugement est mis en délibéré au 13 septembre prochain. De RTL Soir, nous serons palais de justice dans un instant. À 18h20, en ligne avec nous, l'avocat de Patrick Balkany, maître Éric Dupond-Moretti. Le grand débat tout à l'heure dans Refait le Monde. RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal.
L'anesthésiste de Besançon, de nouveau poursuivi pour empoisonnement sur personnes vulnérables. 17 nouveaux cas ont été retenus, cela fait 24 victimes en tout. Plusieurs sont décédés. Tous les détails dès le début de ce journal. Marche arrière toute sur les 80 km/h. Édouard Philippe accepte de s'en remettre aux présidents de département qui pourront relever la vitesse sur certains tronçons. Un crève-cœur pour le Premier ministre, c'était sa mesure. À suivre également, la déception pour les anciens goudilleurs d'Amiens, l'examen de leur plainte au prud'homme est repoussé au calende grec. Un cyberbraquage à 100 millions de dollars, plus de 40 000 victimes dans le monde, le réseau vient d'être démantelé. Antoine Griezmann de plus en plus proche du Barça, c'est une information RTL. Et puis la disparition d'une figure de la chanson française, Mick Michel, l'interprète d'Un gamin de Paris. La bourse de Paris, elle termine ce soir en hausse d'1,37% à 5 448 points.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, H-6 si vous déclarez vos revenus sur papier, mais depuis cette année, la déclaration sur Internet est censée être obligatoire. Alors c'est quoi ces règles à géométrie variable? On peut encore l'envoyer par la poste ou pas? 18h25, direction les coulisses de l'actualité, robots, réalité virtuelle, le futur s'écrit maintenant. On vous amène en coulisses de Vivatech, le grand salon à Paris. 18h30, Alain Duhamel, les turbulences du couple franco-germanique. 18h35, mon ex-acolyte, dont ne peut pas plaire à tout le monde, il était l'obèse le plus célèbre de France, Guy Carlier raconte avec émotion et humour comment il a vaincu l'enfer de la boulimie et perdu 125 kilos, soit un demi-carlier, puisqu'il pesait 250 kilos. Guy avec nous tout à l'heure. Bonsoir, Peggy Broche.
Bonsoir, Marc-Olivier.
Demain, changement de temps.
Et oui, c'est le retour de la pluie sur un quart sud-ouest demain matin. La perturbation va s'étendre sur toute la moitié sud dans l'après-midi, avec des pluies localement soutenues et parfois orageuses. On attend de la neige sur les Pyrénées à 1800 mètres. Et puis sur la moitié nord, le ciel restera plus ou moins chargé mais sec, sauf au bord de la Manche, où là, on aura quelques averses dans l'après-midi. Et encore du soleil le matin sur l'Alsace-Lorraine. Les températures vont nettement baisser dans le sud, 12 à Tarbes, et je parle bien des maximales. Jusqu'à 22 à Strasbourg et 21 à Paris.
À tout à l'heure, Peggy.
À tout à l'heure.
RTL Soir. Il nie farouchement, mais l'anesthésiste de Besançon est à nouveau mis en examen.
Le docteur Frédéric Péchier est déjà poursuivi pour 7 empoisonnements, mais l'enquête a mis au jour une cinquantaine de cas suspects, dont plusieurs mortels. Le médecin est soupçonné d'avoir provoqué des incidents d'anesthésie pour mieux se poser en sauveur. Après 48 heures de garde à vue, il a été déféré ce matin au tribunal de Besançon. Guillaume Chiez, vous êtes sur place pour RTL. 17 nouveaux cas ont été retenus.
Et 17 dossiers dont 7 patients sont décédés. Le procureur de la République a développé la longue enquête menée par la PJ de Besançon et ce tri qui a été effectué. La clinique Saint-Vincent avait signalé 66 événements indésirables graves. Il a fallu trier, être certain, obtenir des preuves. Des exhumations ont eu lieu, de nombreuses auditions également. Au final, un quart des dossiers ont été retenus. Les 17 dont nous parlons, des patients âgés de 4 à 80 ans qui ont en commun la présence du docteur Péchier, comme l'explique Étienne Manteau, le procureur de la République de Besançon.
Monsieur Péchier apparaît comme le dénominateur commun de ces événements indésirables graves. Il est le seul anesthésiste sur la période étudiée, je dis bien le seul, à avoir été présent le jour de l'ensemble des événements indésirables graves suspects. Nous avons affaire à un professionnel de santé particulièrement habile qui a agi lorsque personne ne se trouvait dans les salles d'anesthésie, qui a su varier dans le temps la nature des poisons administrés pour ne pas éveiller les soupçons.
Sur les motivations, le procureur parle de conflit entre le docteur Péchier et ses collègues chirurgiens ou anesthésistes. Il évoque également l'augmentation d'événements indésirables lors de périodes de conflit. A contrario, le fait qu'il n'y avait plus d'incident lorsque le docteur n'exerçait plus. Autre fait intriguant, le docteur n'a jamais été directement touché par ces événements. Au début de sa garde à vue, il a tout nié. Il a fini par reconnaître au bout de 48 heures qu'il y avait bien eu empoisonnement, mais qu'il n'en était pas responsable. Le docteur Péchier saura dans la soirée s'il passe sa première nuit en prison ou non.
Merci Guillaume Chiez, donc à Besançon pour RTL. C'est l'heure des réquisitions, donc au procès Balkany, et c'est de la prison ferme qui a été réclamée.
Oui, l'accusation évoque un acharnement à frauder. Les époux Balkany sont accusés de ne pas avoir payé leur impôt sur la fortune et d'avoir totalement sous-évalué leurs revenus entre 2009 et 2014. Des oublis à 4 millions d'euros. 4 ans de prison ont été requis contre le maire de Levallois avec mandat de dépôt. 4 ans dont 2 ans ferme pour son épouse Isabelle et pour tous les deux 10 ans d'inéligibilité. À l'issue de ces réquisitions, Patrick Balkany est apparu sonné.
Je pense que tous les propos du procureur étaient très excessifs. y compris d'ailleurs sur ses réquisitions.
Alice Moreno, vous êtes au Palais de Justice de Paris pour RTL. On est bien loin du one-man show d'hier.
Oui, c'est un Patrick Balkany stoïque, mutique, qui encaisse les uppercuts envoyés par le procureur. Monsieur Balkany, vous êtes un fraudeur, vous êtes un cynique. La dissimulation a un coût, le mensonge, lui, a un prix. Le maire de Levallois fixe le procureur interdit. Son maître 88 est replié, immobile, sur le banc des prévenus. Une peine autre que de la prison ferme serait une peine injuste, poursuit le procureur. Le couple Balkany ne peut demeurer plus longtemps impuni, car c'est le contribuable français qui financent leur train de vie. Sarcastique, il évoque ensuite le modeste bungalow de Saint-Martin, loué 21 000 euros par semaine, ou les 500 000 euros de montres de luxe consignées dans un coffre-fort à Giverny. Et pourtant, les Balkany n'ont jamais déboursé un centime au titre de l'impôt sur la fortune. Patrick Balkany s'avance alors lentement à la barre. Oui, j'ai commis des fautes. Sa voix grave tremble, faiblit. Il tourne alors la tête vers le procureur. Mais quand même, je vous trouve excessif.
Merci Alice Moreno au Palais de Justice de RTL, au Palais de Justice pour RTL, et à 18h20, donc Maître Dupond-Moretti, invité d'RTL Soir.
Et notez que le jugement sera rendu le 13 septembre. L'enquête sur l'interpellation de lycéens de Mantes-la-Jolie, mise à genoux par la police. L'enquête administrative établit qu'il n'y a pas eu de faute de la part des forces de l'ordre, pas de comportement déviant. C'était en décembre dernier, en pleine mobilisation nationale des lycéens.
Et voilà un demi-tour qui fait crisser les pneus. Édouard Philippe abandonne l'air de rien, les 80 km/h sur les routes secondaires.
Le Premier ministre valide d'un amendement de la majorité. Dans le principe, les 80 km/h sont maintenus, mais les présidents de département auront le pouvoir de relever la vitesse sur certains tronçons. Une façon de lâcher en sauvant la face. La mesure semble pourtant avoir fait ses preuves. L'année dernière, il y a eu beaucoup moins de morts sur les routes. Le Premier ministre en reste assez fier. Cette mesure, c'est sa mesure. Il l'a défendue envers et contre tout, Dominique Tenza.
Et même contre tous, les automobilistes, d'abord les premiers à porter le fer, les élus locaux ensuite, pour qui cette réforme décidée à Paris appliqué en province, était le symbole de la déconnexion d'une certaine élite. Mais surtout, il a dû batailler contre son propre camp. Première alerte, il y a un an, Gérard Collomb est alors interrogé sur la mesure.
J'aimerais bien avoir votre position sur les 80 km/h.
Je prends un joker sur la question suivante.
Un joker qui en dit long, si même le ministre en charge des routes n'y croit pas. Pourtant, Édouard Philippe ne s'avoue pas vaincu.
L'idée, c'est de sauver des vies. L'idée, c'est d'éviter des blessés. Pourquoi est-ce que vous pensez une seconde que mon objectif, ce serait d'emmerder l'automobiliste qui, le matin, prend sa voiture pour aller travailler.
En coulisses, il demande à sa majorité d'aller défendre la mesure sur le terrain, mais peu sont ceux qui s'y risqueront, et pour cause, trois quarts des Français y sont opposés. Certains accusent même cette réforme d'avoir été l'un des déclencheurs de la crise des Gilets jaunes. La popularité du Premier ministre s'effondre avec celle du Président, et c'est lui, Emmanuel Macron, qui portera le coup de grâce lors de son premier débat dans l'heure.
On ferait une bêtise à dire on abandonne nos exigences de sécurité. Par contre, dire, on pense qu'on a des propositions mieux acceptables pour la population, qui seraient tout aussi efficaces, parce que nous, on sait quel est le tronçon qui est dangereux, quel est celui qui ne l'est pas ou autre, à mon avis, peut-être qu'on peut y arriver.
Édouard Philippe comprend ce jour-là que sa mesure vient d'être sacrifiée sur l'autel de la réalité électorale.
Je dois apprendre à composer avec l'incompréhension ou le rejet de certains de nos concitoyens.
Après un an et demi de combat, isolé, il choisit donc aujourd'hui de jeter l'éponge.
Merci Dominique Tenza. Une énorme déception pour les 800 anciens salariés de Goodyear. L'examen de leur plainte au prud'homme est encore repoussé.
Ils estiment qu'ils ont été licenciés sans cause sérieuse il y a 5 ans à la fermeture d'Amiens Nord, et ils réclament une indemnisation à leur ancien employeur. Mais les 4 conseillers des prud'hommes n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Il y aura donc une audience de départage, mais pas avant plusieurs mois, un an peut-être. Dans le Nord, Ascoval peut reprendre son activité. L'État français et British Steel, le repreneur, ont versé aujourd'hui les fonds promis, comme Bruno Le Maire l'avait promis hier sur RTL.
RTL Soir, 18h.
Une pause et dans un instant, un super braquage à 100 millions de dollars.
RTL Soir. Il est 18h11, RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel continue, et pour la suite du journal, Isabelle Choquet.
Et un vaste réseau de cybercriminels vient d'être démantelé. Ils ont dérobé 100 millions de dollars.
Ouais, 100 millions volés à quelques 41 000 victimes dans le monde entier. Plusieurs suspects sont poursuivis en Géorgie, en Ukraine, mais aussi aux États-Unis. Et 5 Russes sont toujours en fuite. Prise du génie, c'est un logiciel russe malveillant qui a servi à cette méga arnaque 2.0.
Oui, qui porte le nom de GhostNIM. Alors, le principe est assez classique, hein. C'est ce qu'on appelle du phishing. Cela passe par un mail avec une pièce jointe. Vous cliquez sur la pièce jointe et GhostNIM entre dans votre ordinateur. Il récupère les coordonnées bancaires, les mots de passe et les autorisations. Les malfaiteurs récupèrent l'argent par virement. L'originalité, c'est qu'ils le faisaient même directement en liquide dans des distributeurs. Ce qui est moins classique en revanche, c'est que cette fraude est d'une ampleur nouvelle, Europol annonce aujourd'hui que le réseau a dérobé près de 100 millions de dollars, ça fait 90 millions d'euros, à plus de 40 000 victimes, essentiellement des entreprises et des institutions financières. Et puis la complexité de ce réseau criminel est nouvelle, ce n'est pas un homme seul derrière son ordinateur, mais des dizaines dans différents pays, la Russie, le Kazakhstan, la Bulgarie, la Moldavie, les États-Unis et l'Allemagne, cachés derrière des serveurs, des messages cryptés. Il a donc été très difficile pour Europol de remonter jusqu'au coupable. L'autre difficulté désormais, c'est de savoir comment poursuivre ces personnes arrêtées, car les législations de ces différents pays ne prévoient pas toutes les mêmes procédures.
Merci Brice Dugény du service étranger de RTL. Griezmann et l'Atlético, c'est terminé. Désormais, l'attaquant français se rapproche de plus en plus du Barça.
Oui, hier sur RTL, l'ancien sprinter Usain Bolt lui conseillait de trouver refuge à Manchester United. On sait que le PSG est sur les rangs, mais selon vos informations, Mathias Valton, l'avocat de Griezou est attendu ces jours-ci à Barcelone.
Oui, c'est Van Carian, l'avocat parisien d'Antoine Griezmann, sera à Barcelone à partir de samedi et y restera jusqu'à mardi prochain. Et on doute que ce déplacement de 4 jours ait pour but de visiter la Sagrada Familia. Si aucune officialisation n'a encore été faite, Griezmann semble donc de plus en plus proche d'un transfert au Barça cet été. Un contrat de 5 ans latent, et plusieurs médias assurent même qu'il aurait déjà signé un préaccord avec le club catalan, il y a un mois et demi, au lendemain de son élimination avec l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. La radio espagnole Cadena Ser révèle d'ailleurs que Griezmann avait prévu de mettre en scène son départ de l'Atlético dans un nouveau documentaire. Une initiative pas vraiment du goût de ses actuels dirigeants qui le lui ont interdit. Mais attention, rien n'est encore joué pour le FC Barcelone. Le PSG, le Bayern Munich et Manchester United seraient également sur les rangs pour enrôler le Français. C'est donc une partie de poker menteur qui vient de commencer.
Mathias Valton pour RTL. Et on va terminer avec la disparition d'une vedette de la chanson française. Mick Michel vient de s'éteindre. Elle avait 97 ans.
Cette Lyonnaise était peintre et sculpteur de formation. Mais c'est comme chanteuse de cabaret qu'elle a connu le succès à Paris, notamment avec le standard Un gamin de Paris, repris plus tard par Yves Montand et Patachou. Mick Michel était notamment la marraine de cœur de Laurent Gérard, qui se souvient d'elle avec émotion.
Moi, je l'ai connue vraiment à mes tout débuts, il y a 30 ans, parce qu'elle était lyonnaise et moi, je débutais. Elle m'avait pris sous son aile, elle m'avait dit « j'aimerais être ta marraine dans le métier », ce qui m'avait d'ailleurs plutôt porté chance. C'était une femme vraiment qui aimait le musical, qui aimait s'entourer, qui avait une vraie belle carrière. Et moi, je lui rends hommage d'ailleurs tout le temps dans le spectacle, parce que je chante « Les gamins de Paris » par Yves Montand. Mais il y a plein de chansons d'elle que j'aime beaucoup, « Cano Canoë »,« Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là ». Ça fait partie de cette génération qui ont vraiment créé des vrais spectacles de musical. Alors, c'est les hasards du calendrier et puis peut-être des signes de la vie. On a enregistré une parodie du Gamin de Paris sur la mère de Paris. Donc, on devrait entendre ça sur RTL dans les semaines qui viennent.
Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans un café. Il a dit à la même, car c'est un titi.
L'hommage donc de Laurent Gérard au micro d'Isabelle Morini-Bosque. Hommage à Mick Michel qui vient de s'éteindre. À tout à l'heure, Isabelle. Les clés pour bien comprendre l'actualité.